Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Il y a 3 semaines, lorsque c'était ma dernière visite, alors on revient aujourd'hui, et nous avions traité un sujet que je voudrais poursuivre ou terminer aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que vous en souvenez? Cherchez bien. Auriez-vous oublié? Si oui, si vous avez oublié, je ne reviens plus vous voir. Voilà, c'est un petit clin d'œil, hein. Un petit clin d'œil. Alors, vous allez le reconnaître. Je prends le texte, Hébreux, chapitre 2, quelques versets. Hébreux, chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi, en conséquence de quoi, on pourrait peut-être paraphraser comme ça. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses que nous avons entendues et que nous n'avons pas oubliées. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu sa juste rétribution, ça c'était le régime de l'Ancien Testament, la loi, alors il est dit maintenant, alors que nous sommes beaucoup plus favorisés que les hommes d'Israël dans l'ancien temps, alors il est dit, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur, l'Évangile, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage. Et il y a des faits par des signes, des prodiges, des miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Tout a été fait par Dieu et c'est complet et c'est parfait. Et nous n'avons pas à douter, il suffit tout simplement de suivre le fil et de croire. Et là, nous allons voir des signes, des miracles, des choses extraordinaires. Et en plus, l'essentiel et le principal, c'est que nous allons renforcer notre vie spirituelle, notre âme dans la foi, notre esprit dans la foi en Jésus-Christ. Les choses ont été données. Alors, il était question d'échapper, tenter, eh bien d'échapper à Dieu. Comment pourrions-nous échapper un Dieu si bon, si grand, qui a tout fait, qui a fait tout contribuer à notre piété, à notre vie spirituelle, à nous donner tout ce qui est nécessaire sur le plan de notre vie physique, matérielle, économique, professionnelle, tout ce que vous voulez, et puis tout le reste, hein, finalement, eh bien, que nos sentiments, nos affects, etc., etc. Parce que nous sommes ses enfants. Et comment, en étant enfants, nous puissions oublier notre Père, qui nous a tant donné et qu'il l'a fait avec amour. Échapper. Ça, c'était le thème. Comment pourrions-nous échapper à, finalement, eh bien, si grand privilège qui est le nôtre? Je voudrais faire un petit récapitulatif, parce qu'on va avoir un prolongement, échapper et s'évader. Alors, on va en parler d'ici quelques temps. Vous savez, l'évasion, c'est la fuite. On fuit par toutes sortes de moyens divers, etc., etc. Nous vivons une époque qui n'est pas la seule dans l'histoire des hommes. C'est où les gens migrent. Ils vont d'un endroit à Dieu parce qu'ils ne sont pas forcément heureux. Ils sont persécutés parce qu'ils sont poursuivis, parce qu'ils sont, ils sont disputés. Alors ils prennent la fuite, ils s'évadent. Alors avec des risques inouïs, hein, nous en entendons parler tous les jours. Et puis ça a toujours été depuis les temps immémoriaux où les gens, eh bien, quittent leur pays pour aller dans un autre, en pensant que c'est peut-être mieux. Pardon. À travers, moi j'ai été surpris d'apprendre il y a quelque temps que, en 1945, à la libération de cette Deuxième Guerre mondiale, c'était des millions et des millions d'Européens qui étaient sur les routes. Des Tchèques, des Polonais, c'était la la transhumance, si on peut parler de ça, de brebis errantes qui fuyaient dans tous les sens. Et vous savez que cette migration de l'un et de l'autre, des uns et des autres, ça ne s'est pas terminé en 2 jours. Hein. 10 ans après, il y en a qui fuyaient encore. Hein. Parce qu'ils étaient repoussés, parce qu'ils étaient finalement... Ben, on connaît l'histoire. Hein. Et dans toute l'histoire de l'humanité, c'était ça. Hein. Au moment où il y avait les croisades, si on veut se souvenir. Au moment où il y avait des conflits, toutes sortes de choses. Ça a été terrible. Hein. Depuis toujours, c'était ça. S'évader. L'évasion. Alors, c'est vrai que j'aimerais redonner quelques notions de rappel. Échapper est un réflexe. D'ailleurs, ça peut être bon dans un certain sens, parce que à un moment donné, Jésus dit « Si vous êtes persécuté dans une ville, fuyez dans une autre. » C'est pas la peine de se faire massacrer, et puis pour quelle raison? Il y a des raisons, probablement. Il y a des gens qui, comme nous le voyons dans certaines religions, comme l'islam, ils sont là prêts à mourir, les kamikazes et tout ça, parce qu'ils se disent « On va aller directement au ciel. » Bon. Ben, je pense que c'est pas tout à fait notre mentalité européenne et puis dans notre temps aujourd'hui. Donc, échapper est un réflexe qui s'associe avec la peur et la crainte. Ouais, ben, on va pas rester là, naturellement. Hein. On ne sait pas ce qui se passerait si véritablement il y avait une amplification de ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous ferions? On a peine à croire, et je ne veux pas faire de politique naturellement, mais on a peine à croire... que tantôt ça pourrait être l'Ukraine, ça pourrait être la Russie, les habitants, les Russes, ça pourrait être les Palestiniens, ça pourrait être les Israéliens et tout ça. Parce que finalement, c'est quelque chose la peur. Elle nous motive à ne pas rester nous faire tuer. Nous avons été appelés à vivre. Surtout quand il s'agit de régimes qui n'ont ni feu, ni Dieu, ni loi, et que ce sont des fous, hein, quelque part. Hein. Alors c'est vrai, soit on a peur, c'est la peur, la crainte d'un jugement, parce que c'est peut-être encore arrivé, mais le jugement va tomber à un moment donné, une condamnation, un danger probable, ou un autre éloignement qui fait que nous allons muter, et souvent dans la précipitation. Hein. Les fuites, on le voit là au Liban aujourd'hui, hein. Un coup, voilà, on leur dit « quittez le sud », mais après on leur dit « ils sont dans le nord », et puis bon, voilà, c'est la même chose qu'à Gaza, hein, c'est pareil. Hein. Alors c'est des va-et-vient, etc. Et puis pendant ce temps-là, il y a une pluie de fer qui tombe sur ces pauvres gens. Ça, c'est vrai. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. On ne peut pas rester indifférent. Hein. Donc, échapper dans la précipitation, c'est le sauf qui peut. C'est véritablement, eh bien là, on pourrait dire qu'il y a des synonymes à ça. C'est se dérober à... finalement, d'abord, c'est s'esquiver. Là, on essaie de trouver, c'est fuir, c'est s'enfuir, hein, tout simplement. Alors, les raisons de toutes les fuites, on pourrait peut-être les réunir dans une pensée. Et là, dans le texte qui nous intéresse, il ne s'agit pas seulement des vicissitudes de l'humanité dans ses pérégrinations, d'une manière ou d'une autre, mais là, il s'agit de s'évader ou fuir, hein. La réalité de Dieu. Cachez-nous, montagne, nous dit le livre de l'Apocalypse. Hein, vous connaissez, cachez-nous, rocher. Parce que finalement, eh bien, et la réalité de Dieu, ce texte que nous avons lu, il nous est dit, surtout avec soin, ne l'oubliez pas. Parce qu'il y a derrière un si grand salut qui a coûté un si grand prix à Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. Et elle a été annoncée par des anges. L'Ancien Testament, elle était annoncée par Jésus, elle était annoncée par, finalement, eh bien, les témoins de Christ, et puis elle est annoncée encore pour nous. Et nous, aujourd'hui, ce texte est encore d'une grande actualité, donc s'évader au fur la réalité de Dieu. On ne veut pas entendre parler de Dieu, et de plus en plus, il y a une déchristianisation, finalement, dans notre monde. Je voudrais vous dire, pour marquer les choses, que Dieu est un refuge, il n'est pas une prison. Et beaucoup, des millions et des millions de gens, peut-être ayant déchu dans leur religion, hein, de naissance ou tout ce que l'on veut, eh bien, pense que Dieu est avant tout quelqu'un qui nous enferme, quelqu'un qui nous met en prison, quelqu'un qui est notre geôlier, qui nous surveille. Non, c'est un refuge. Quand vous lisez les psaumes, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand vous lisez les paroles merveilleuses et pleines de bienveillance de Jésus, Jésus nous dit « Mais je suis votre refuge, je suis votre asile, je suis votre rocher. » Et il est le Dieu de la liberté. Ne faites pas, finalement, eh bien, abstraction que Jésus est mort pour nous donner la liberté. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Ça fait partie finalement du programme de la grâce de Dieu, tout simplement. Et ce n'est pas un enfermement. Il y a des gens qui disent « ne parlez pas de Dieu parce que bon, je ne vais plus pouvoir faire ceci, je ne vais plus pouvoir faire cela, etc. etc. » C'est pas ça. Hein. Ça, ce sont les préjugés des hommes, nourris quelquefois par la religion qui leur a fait peur. Attention, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, Dieu va te punir, Dieu va te juger. Et c'est une erreur de l'humanité. Et vous savez, c'est le subtil mensonge, et bien là, que le diable a donné à Adam et Ève pour que véritablement, et bien, ils pensent que Dieu est mauvais, que Dieu est mauvais, que Dieu est méchant. Voilà. Alors, peut-être avant de, et nous construisons ce texte, on va le construire ensemble, il est bien donné cette parole, elle est belle, et moi je m'en sers souvent. Dieu dit à Israël, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Moi, je suis la vie. Ne va pas sur les chemins qui donnent la mort. » Alors, la bénédiction et la malédiction. Là, les choses sont passées en neutralité. Hein. C'est à toi de choisir. Il y a une voie, il y en a une autre. Mais elles n'ont pas la même destination. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta famille, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel. Parce qu'il est digne d'amour, ton Dieu, et obéir à sa voix. N'oubliez pas. Ne faites pas abstraction, finalement, de dire, il a parlé, mais on n'a pas trop besoin d'entendre sa voix. Pour t'attacher à lui, car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Alors ainsi, finalement, tu pourras rentrer dans la bénédiction dans le pays de Canaan, et puis, pour nous, dans le Nouveau Testament, eh bien, dans le ciel de gloire, tout simplement. La Bible déclare également que la personnalité des individus est gravement perturbée par le mal et le péché qui existent. Eh oui, imaginez-vous un monde sans péché, un monde où le mal n'existerait pas, où le cœur des hommes serait bon, où véritablement eh bien, les politiques humaines seraient véritablement au service eh bien, des citoyens, des sujets, des pays, etc. etc. Et il y a bien d'autres frustrations, où là, eh bien, il y a une influence d'échapper, les frustrations, les peurs, les anxiétés, le stress, et autant de phénomènes de notre époque de désordre. Vous savez, nous sommes à un croisement, hein, mais ça a toujours été, hein, il y a toujours eu des carrefours à prendre hein, pour l'humanité. Et nous savons qu'il y a une telle pression, une telle oppression, une telle force, eh bien là, qui s'oppose au bien, au salut, à la grâce, que vraiment nous pouvons dire que nous sommes dans un monde de désordre. Et comment retrouver finalement la route? Comment retrouver tout cela? Le texte est là pour nous le dire. Le texte que nous avons comme référence. Les problèmes psychologiques se trouvent ou trouvent leur origine dans le refus persistant de regarder la vie telle qu'elle est. Il y en a qui préfèrent finalement tourner le dos à tout ça. Et pourtant, ce sont des réalités désagréables, des réalités tragiques, des réalités qui sont à terme mortifères. Alors on ne veut pas regarder, on dit « bon, on verra bien comment ça va se passer ». De regarder la vérité en face, la vérité c'est la parole de Dieu. Et c'est aussi la confirmation du Saint-Esprit qui est en nous, nous sommes le temple de Christ, et qui nous parle aussi. Il nous parle par la parole, par notre intelligence naturellement, mais il nous parle aussi par toutes sortes de messages qu'il nous donne au fond de notre cœur, pour que nous nous maintenions dans la fidélité à Dieu, parce que finalement, si on le renie, lui ne nous renie pas. À partir du moment où on a déclaré que nous le suivions, qu'il est notre sauveur, qu'il est mort pour nous, ben, c'est scellé hein, aujourd'hui. C'est pour ça, mes frères et sœurs, vous qui avez des enfants et que vous désespérez, peut-être plus grand hein, naturellement, Eh bien, moi je crois que... Continuez à prier pour eux. Et ne leur rabâchez pas continuellement. Il faut que vous vous convertissiez, il faut que vous tourniez vers Dieu. Parce que là, on fait exactement le contraire. Priez pour eux, en silence. Unissez-vous pour véritablement porter votre fardeau. On en a, nous aussi, hein, des fardeaux. Mais c'est pas la peine de leur dire, ils le savent depuis qu'ils sont tout petits. Surtout pour les familles chrétiennes. Non. Moi, j'ai toujours vu, et le bilan que je peux faire dans mon ministère pastoral, en ayant suivi des familles, c'est que plus on leur dit, plus ils résistent. Ouais. Parce qu'autrement, ils vont pas vouloir, hein, ça c'est certain. Alors, nous voyons que tout cela trouve leur origine dans le refus persistant de regarder la vie et ses vérités en face, sans masque, pour voir les réalités, parce que nous nous apercevons que là, nous nous trompons de méthode. Oui, de méthode. Vous savez, je voudrais vous dire que le diable n'a pas inventé de nouvelles astuces. Lui, il est ficelle, hein, excusez-moi l'expression. Il a tiré sur tous les bras, il fait des nœuds, etc. Ah oui, pour faire des nœuds, pour pas que ça passe, ça c'est certain, hein, d'une manière ou d'une autre. Et c'est très intelligent. C'est un être pensant et intelligent, mais dans le mal. Alors, nous pouvons dire que quelque part, eh bien, on peut l'ajouter, c'est que c'est quelque chose dont nous devons prendre en compte. Hein. Échapper ou fuir, ou s'enfuir tout simplement. Alors je voulais simplement ajouter ceci, c'est que le diable n'a pas inventé de nouvelles astuces, car il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a que des nouveaux pécheurs. D'accord ? Oui. Il n'y a pas de nouveaux crimes, mais de nouveaux criminels. Lisez les journaux, et voyez que ça prend des proportions terribles. Il n'y a pas de nouveaux plaisirs coupables, mais de nouveaux débauchés. Par l'amplitude, finalement, de la vague. Parce que là, on est maintenant dans le tsunami, hein. Faut pas s'illusionner. Hein. C'est plus des vaguelettes sur la plage. Hein. C'est véritablement quelque chose de tellement important. Comment peut-on se sortir dans toute cette boue et dans tout ça? Je suis pas en train de critiquer les hommes. Je suis en train de critiquer et de mettre en évidence et de faire ressortir les flots de boue qui se déversent sur notre monde. Parce que même les débauchés, même les criminels, ils ont besoin du salut de Dieu, hein. Peut-être même plus que nous, bien pensants et bien réfléchissants. Hein. Parce que Jésus nous a dit ces choses, la lumière étant venue dans le monde des hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils se sont enfuis. Ils s'enfuient devant le soleil de justice, devant le soleil de la vérité. Ils s'enfuient parce que ils veulent échapper à Dieu. Alors ils ont préféré les ténèbres à la lumière, et leur désir dans cette affaire, dans le monde dans lequel on vit, un monde troublé, un monde où on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, on ne sait plus ce qui est pur et impur, hein. Alors on patauge dans tout ça. Hein. Et vouloir échapper à Dieu, on l'accepte ou on le rejette. On accepte Dieu pour qu'il vienne marcher avec nous, ou alors on va le rejeter. Et de toute façon, il faut dire que toutes les réalités, les tactiques inventées par le diable d'une manière ou d'une autre, hein, que je viens de citer, elles nous rattrapent tôt ou tard. À un moment ou à un autre, il y a un bilan qui va être fait, de toute façon. Je continue. Ce que nous choisissons déterminera ou non si nous voulons grandir, remonter la pente et progresser, ou alors au second moment, nous enfoncer dans un état permanent de trouble et de médiocrité. C'est terrible le monde quand on le voit souffrir. Mais quelque part, le monde lui-même, d'une manière ou d'une autre, par sa folie, par ses absences, par ce manque de sagesse, ce manque de prudence surtout, eh bien quelque part, on peut le souligner, eh bien plonge le monde dans un état permanent, tout simplement de trouble et de médiocrité. Ah oui, les gens sont pas heureux, hein. Et peut-être, on n'a peut-être pas fini d'en voir, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit. Alors, à ce moment-là, et nous allons passer à la deuxième page, le deuxième volet, c'est que les hommes sont habiles pour imaginer se soustraire à leur Créateur, alors qu'ils savent que Dieu est un refuge. Il est celui qui guérit, celui qui bénit, celui qui donne la grâce de vivre, et le plaisir de vivre, la joie de vivre, parce que ça existe aussi. Hein. Faut pas l'oublier, hein. C'est tellement sombre. C'est tellement brouillé le contexte dans lequel nous vivons, eh bien c'est quelque chose dont il faut véritablement comprendre. Et nous voyons que il s'imagine qu'il va trouver une solution en s'éloignant de Dieu et non pas se rapprochant de lui. Et nous pouvons dire que cette forme subtile, tout simplement, c'est une échappatoire et ça s'appelle l'évasion. Alors on va maintenant mettre de côté comment échapper à Dieu, pourquoi échapper à Dieu, on l'a vu, on a donné l'explication, maintenant c'est l'évasion. L'évasion, c'est se dérober à l'emprise de. Alors vous y mettez tout ce que vous voulez, en bien ou en mal. Hein. On parle d'emprise aujourd'hui hein, par rapport à la séduction dans les situations familiales, conjugales, qui sont tellement dégradées, ah oui, qui sont tellement houleuses, avec tout ce que l'on voit derrière, hein, les meurtres, les assassinats, la violence, comment pourrait-on dire, hein, tout ce qui fait appel à ce qui sort de notre bouche et qui est véritablement d'une violence inouïe, on peut le dire, hein, se dérober à l'emprise. Et vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que notre Dieu dont nous parlons, bienveillant, eh bien, il est dit ceci dans le livre des Hébreux, c'est le même livre que nous avons ouvert il y a un instant, il est dit « Nulle créature, finalement, est cachée aux yeux de Dieu, parce que devant Dieu, tout est à nous et à découvert. » Alors, on peut toujours se cacher, on peut toujours dissimuler ceci, cela, ça ne change rien, Dieu le sait, dès que finalement les faits sont avérés, pas qu'ils sont finalement, eh bien, commis, d'une manière ou d'une autre. Oui, nulle créature n'est cachée aux yeux de Dieu. Alors, je voudrais faire ce rappel encore, s'il est nécessaire, hein, c'est que Dieu n'est ni une prison, mais un refuge. Ah oui, il faut que, véritablement, ça rentre dans notre tête. Et s'évader consiste à se réfugier dans une pensée, c'est-à-dire partir, fuir, penser de l'imagination. Et nous en arrivons à un autre texte que j'aimerais lire. C'est dans le psaume, si vous voulez m'accompagner, il n'est pas très long. C'est dans le psaume, et vous le connaissez parfaitement, au psaume 139, il est dit ceci au verset 7. Écoutez bien, c'est David qui dit ça, parce que lui aussi il a fait des tentatives, de fuir. Hein. Et il a eu des raisons de fuir, hein. Certainement, parce qu'il avait un ami qui n'était pas son ami, mais qui quelque part voulait lui faire son affaire. Hein. Alors, mais il n'y a pas que ça. Alors, David dit, il parle à Dieu. « Où irai-je loin de ton esprit ?» C'est l'essentiel. Hein. « Où fuirai-je loin de ta face ?»« Si je monte aux cieux, dit David, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, le petit matin, du jour, d'un jour, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. » Et ta main me saisira. Quelle bienveillance. Il y croit. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alors, un peu plus loin, mon corps n'était point caché devant ta face lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tu es poussière et tu reviendras poussière. Mais en attendant, tu es un homme. En attendant, tu es un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, si on veut radicaliser. S'enfuir devant Dieu. S'évader, c'est un cas de fuite illusoire. Je vous ai dit, vous pouvez partir au bout de la terre, comme David le dit. Mais tu es là, Seigneur. J'avais pensé que j'allais te semer, mais tu es là, puisque je t'ai demandé de venir avec moi un certain temps, et maintenant je voudrais t'oublier. Ah oui, parce que je veux t'oublier, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, et j'aimerais bien que tu ne sois pas le témoin, que tu ne sois pas à un moment donné celui qui va me le reprocher. Mais ce n'est pas Dieu qui va nous juger, c'est nous qui allons nous juger nous-mêmes. Ouais, Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. Ça change tout. Hein. Alors, s'enfuir, cette échappatoire qui consiste tout simplement à s'évader, cela consiste à se réfugier dans une pensée, dans notre imaginaire, c'est dans notre tête que ça se passe. Ah, si on n'avait pas de tête, si on n'avait pas cette réflexion, et pourtant Dieu nous l'a donnée pour qu'elle nous serve. Alors, elle peut nous servir avec une grande intelligence et Dieu est capable de nous donner son génie de réflexion, pour le bien. Mais quand on a perdu le lien avec Dieu, c'est le contraire qui va se produire. Un génie pour, eh bien là, échapper à quelque chose. Parce que c'est si ça reste au niveau de notre tête, nous allons trouver qu'une hypothétique espérance de secours, mais qui n'est pas le vrai secours. Oh, mais il y en a des échelles à cordes, de cordes. Il y en a des échappatoires d'une manière ou d'une autre pour passer les murs, pour faire ceci, cela, et puis véritablement de dire, moi je me cache derrière mon rocher, et puis personne ne le saura et personne ne le verra. Mais non, c'est faux ça. Ça c'est dans notre imaginaire, tout simplement. C'est une espérance de secours illusoire, tout simplement. Alors, je vais donner trois cas. Deux ou trois cas. Le prisonnier, dans son cachot, se représente la liberté et il regarde le ciel bleu. Il a que ça à faire. Il a la lune le soir, il a le soleil, une lumière, hein, et il y a le ciel bleu. Alors, il a tout le temps, tout le loisir, il s'imagine ou il imagine l'irréalisable, parce que l'irréalisable, ça se concrétise par les barreaux qui le retiennent enfermé. Eh bien, ils sont toujours aux fenêtres. Il peut toujours rêver, hein. Il n'y a plus de barreaux, hein. Et puis, également, la porte de fer qui reste toujours verrouillée. Et là, on est prisonnier. On est prisonnier. On se dit, si je pouvais m'évader. Alors, il y en a qui sont vraiment des artistes. Hein. Ils vont creuser pendant des mois et des mois avec un petit bout de ferraille. Et puis, les autres les attendent à la sortie. Mais on a des films par rapport sur des évasions qui sont extraordinaires. Hein. La Grande Évasion, vous connaissez, hein, c'est un film connu, ça fait partie des classiques du cinéma français. Hein. Puis il y en a bien d'autres comme ça. Hein. Ah, évader ! Et je suis sûr qu'il y a des millions et des millions de gens qui sont actuellement derrière des portes de fer et qui s'imaginent, qui pensent qu'ils vont trouver la solution miracle pour partir. Il faut s'appeler Pierre, hein. Vous connaissez le livre des Actes ? Alors là, c'est formidable. Et vous savez comment il a été libéré ? Non pas parce qu'il a forcé les portes avec, parce qu'il était costaud, hein, je pense, Pierre. Hein, mais tout simplement parce que dans une petite maison au centre d'une ville, là où ils étaient, hein, je ne me souviens plus du nom, eh bien, un groupe de chrétiens priait pour sa libération. Et là, il s'est passé une chose formidable. Eh oui, ça c'est le prisonnier. Il a des barreaux à ses fenêtres, et il a affaire à une porte de fer qui reste verrouillée. Ah, on prend un cas moral maintenant. On va citer Samson. Lui aussi. Ah ouais, c'était un... Puis alors, attendez, il était doté de surnaturel. Hein. C'était pas n'importe qui. Hein. Dieu l'avait choisi, même avant sa naissance. C'est déjà pas mal. Hein. Et Samson, qui va, pour s'enfuir... S'enfuir de son bourbier, hein, parce que c'est ça, il est tombé dans un bourbier. Il avait une gentille petite fiancée qui s'appelait Dalida. Non, Delila. Non, 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 mais je l'ai fait exprès. Hein? Dalila. Dalila, oui. C'est bien ça, hein? Oui. Alors, il était avec, voilà, il avait que Dieu pour, alors Dieu, Y, hein, vous connaissez ce que je veux dire, que pour elle, elle devait être belle. Mais elle était fausse. Hein? Elle était fausse. Hein? Qui va échanger sa force surnaturelle parce qu'il est retenu, et ça, c'est pas la porte de fer ni les barreaux, hein? Il était retenu par les mirages de ses passions sensuelles. C'était à l'intérieur de lui-même. Ah, elle lui faisait des caresses. Elle était là près de lui. Mon cher Samson, qu'est-ce que je t'aime! Alors lui, il était parti dans ce somnifère-là, enfin, avec ses somnifères, et tout ça, il ne voyait rien du tout. Mais il va tâcher de fuir, et il va payer ses excès de témérité. Parce que quand il sera pris, quand il sera dévoilé, que Dieu va le livrer à lui-même, entre les mains de la ficeleuse, oui, c'est ça, hein, vous l'appelez comme ça, hein. Et qu'à un moment donné, allez, les Philistins sont sur toi, lui, il va vouloir donner un coup d'épaule, mais rien du tout. Hein. Et ça, c'est le piège. C'est le piège. Il va vouloir partir, il va vouloir s'échapper, il va vouloir s'enfuir, mais rien n'y fera. Et au moment où on va le prendre, on va lui crever les yeux. Et puis, on va le faire tourner là pendant je ne sais pas combien de temps, eh bien, à moudre, eh bien là, à une meule. Et puis le pauvre, ben, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais en tous les cas, il a mal fini sa vie. Il y a David aussi. Citons David. Qui lui aussi, c'est une histoire de femme. Hein. Oh les dames, bon, je ne sais pas comment doit-on en parler. Non, mais il y a des bonnes femmes. Hein. Bonnes. Alors, Bathsheba. Bathsheba, elle n'a rien fait, elle y était pour rien, elle était belle. Et David, qui ne savait pas quoi faire, une nuit, un soir, il a regardé, et là, sur les remparts de la ville de Jérusalem, il y avait cette femme qui se promenait, qui prenait son bain à boire. Ouais, évidemment, hein, c'est pas si moderne qu'aujourd'hui. Hein. Et il l'a convoité, il est devenu fou avec ça, avec Bathsheba. Et il va se retrouver en deux temps de mouvement, eh bien, la désapprouvée de Dieu, et il va attirer David sur lui, tout simplement, il va attirer sur lui des années de remords qui vont véritablement l'entamer. Hein. Il ne sera plus le même après. Hein. Il va perdre ses fils. Oui. Il va y avoir véritablement une catastrophe dans sa famille. Et jusqu'à la fin, le pauvre David, eh bien, il va finir douloureusement. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Il avait une prison aussi. Et pourtant, il avait fait de Dieu son refuge. Quand on voit ces psaumes, quand on voit ces écritures à David, mais quel amour il avait pour Dieu, mais comme quoi on peut être apparemment spirituel et puis tomber dans les pièges. Et la porte se referme, ouais, et on se retrouve tout seul en disant, mais qu'est-ce que l'on va faire? Alors je voudrais vous dire que Dieu ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il nous mène à une école. Parce que ce que nous n'avons pas voulu apprendre avant, eh bien on va l'apprendre après. Mais quand on a un certain âge, c'est plus difficile. Ouais. Enseigne l'enfant quand il est jeune, parce qu'il ne va pas s'en détourner, mais enseigner quelqu'un qui arrive à un âge mature, ça va être plus difficile parce qu'on a une vie derrière. Et puis maintenant, on a encore une vie devant, peut-être, hein, certainement devant. Et là, on va apprendre la leçon de rester tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de ferveur dans la jeunesse. Ça c'est sûr, avec beaucoup de bêtises, beaucoup de fautes de jeunesse. Mais après, ça va être autrement, tu vas plus réfléchir de la même manière. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez du fils prodigue? Ah ouais, favorisé le garçon, hein. Quand on voit qu'il était fils d'une maison paternelle où il y avait de l'argent, il avait tout, c'était un prince en quelque sorte le fils prodigue, qui va s'imaginer que ses plaisirs douteux sont préférables à ceux de la maison paternelle. Il va dire, excusez-moi l'expression, mais je le dis à chaque fois, il devait réfléchir de cette manière, il devait dire, oh, zut, je suis malheureux d'être heureux. Ça vous va? Eh oui. Alors il se dit, ben écoute papa, tu me donnes la part de bien qui me revient, voilà, et moi je vais faire la vie. Et parce que c'était quand même, il me dit, mais moi mes copains, ils font ceci, ils font cela, etc. etc. Il voulait échapper à son père, hein, son bon père, hein. Si on veut le mettre sur le plan spirituel, il voulait échapper à Dieu, le fils prodigue. Et il se disait, mais de toute façon, moi, avec ce que je suis, ce que j'ai appris, il n'avait pas appris grand-chose, hein, si c'était un adolescent. Et il préférait finalement eh bien, faire tout simplement en gaspillant ce qu'il avait, l'acquis qu'il avait. C'est pour ça, hein, moi je dis, nous avons reçu beaucoup. Si nous sommes convertis jeunes, si nous sommes convertis dans l'Église, que nous sommes nos parents sont enfants de chrétiens, mais vous n'imaginez pas la fortune que vous avez. Et aujourd'hui, ce sont ceux, dans l'Église, les enfants de chrétiens, qui sont les moins enclins à s'engager pour Dieu. Vous avez eh bien, des gens qui viennent de l'extérieur, ils ont traîné leurs bottes dans la boue, ils ont traîné leurs bottes dans toutes sortes de choses, et ils entendent l'Évangile, pour ça que nous avons besoin de prier pour le monde. Et quand ils entendent parler de Jésus qui libère, que Jésus est un refuge, que Jésus est le sauveur, eh bien ils viennent tout de suite. Et ça fait des chrétiens formidables après. C'est peut-être un petit peu notre histoire à chacun. Peut-être. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve dans la disette. Il a tout perdu. Tout perdu. Alors ces trois personnages que nous avons cités, trois, quatre, hein, ont trouvé leur prison à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais, c'est encore une forme d'évasion ça. Il se donnait des raisons, il se donnait des consolations. Oui, ça va mal dans ma vie, mais néanmoins, j'y trouve quand même mon goût et j'ai pas envie de me tourner vers Dieu. Ça ne m'intéresse plus. En voulant échapper à Dieu. Et plus on veut échapper à Dieu, plus on s'enfonce. C'est comme les sables mouvants. Hein. Vous savez, quelqu'un qui est en train de s'enfoncer sur une plage où il y a des sables mouvants, les conseils qui nous sont donnés par la sécurité, par les secouristes, surtout ne bougez pas. Il y a des positions à avoir, mais surtout ne piétinez pas, parce que plus vous allez piétiner, plus vous allez vous enfoncer. Il y a des centaines de gens qui sont morts dans l'histoire avec ça, hein, c'est ce problème. Alors, c'est pas la peine, comme le chien qui s'étrangle parce qu'on lui a mis un collier au cou, plus il tire, plus il est en train d'étouffer. Restons calmes, zen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force et votre secours. Et Dieu va vous récupérer. Dieu va vous donner de trouver finalement la solution. Ça, c'est sûr. N'oublions jamais la reconquête de la liberté sans Dieu. J'insiste. Hein. N'allons pas nous imaginer dans nos rêves d'évasion que si nous voulons reconquérir la liberté, ça ne se fera jamais sans Dieu. Dieu est le Dieu de la liberté. Il est le Dieu de la liberté. Ne l'oubliez pas, hein, parce que ça, c'est véritablement c'est hypothétique, c'est aléatoire, sachant que les passions et autres prétextes se terminent dans un rêve brutal que l'on appelle un cauchemar et de cruelles déceptions. C'est ce qui s'est passé pour ceux que j'ai tissé, David, Samson, les uns et les autres, les fils prodigues. Les prétextes maintenant, parce qu'il faut quand même évasion. C'est associé au mot prétexte, les prétextes ambigus que l'on cache derrière de faux motifs. Ah oui, je suis comme ça, je fais comme ça, j'ai pensé que finalement je pouvais faire exploser la prison, ça ce sont des choses, c'est des faux motifs, masquent la vérité qu'on refuse d'avouer, mais aussi parfois nos folies aventureuses qu'on dissimule et nos étourdissements insensés qui témoignent que nous sommes dans la chimère de la vie, et nous nous illusionnons que là nous allons véritablement rentrer dans un paradis, mais qui n'est pas le paradis de Dieu, mais un paradis artificiel, et ça c'est tout simplement taxé de vanité et d'orgueil. Restons humbles, restons petits, c'est comme ça qu'on sera grand. Restons patients, c'est pas la peine de remuer ciel et terre. Parce qu'on veut s'évader d'une chose. Vous voulez vous évader de la maladie, faites confiance à Dieu, parce que c'est lui qui détient votre vie, votre guérison, ou votre départ pour la gloire. Mais oui, c'est ça. C'est pas la peine de faire toute une, comme on dit, de remuer ciel et terre. Et puis le reste, mais oui, c'est pas la peine. Vous êtes au chômage, mais le Seigneur a quelque chose pour vous, à pas vous laisser mourir de faim. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Et là, ça sera vraiment une belle expérience de votre part. Vous voulez sortir de vos traumatismes que vous avez eu en tant qu'enfant, avec des choses de violence, avec des choses peut-être de viol, toutes sortes de choses comme ça. Eh bien, c'est le Seigneur qui va vous en sortir et qui va vous calmer et qui vous fera oublier les anciennes blessures. C'est lui. Mais pas essayer de monter tout un stratagème, hein, en disant « mais je vais me délivrer moi-même ». C'est de l'orgueil et de la vanité, tout simplement, hein. Parce que si nous marchons dans les chaussures de l'orgueil, vous savez ce qu'il nous est dit dans le livre des Proverbes ? Il nous est dit que l'orgueil précède la chute, la ruine, et pas la bénédiction. C'est le monde. Autre sorte d'obligatoire, je vais bientôt finir, il est tragique, et c'est définitif. Je ne vais pas en faire le commentaire, puisque j'ai déjà prêché combien de fois des messages sur le sujet. Lorsque les chrétiens, ça peut arriver, hein, moi, on a vu des gens qui suivaient l'Évangile, qui vivaient l'Évangile, engagés ou non engagés, qui sont arrivés à cette situation définitive, lassés de vivre dans ce que l'on peut appeler l'évasion du suicide. Aujourd'hui, je suis encore troublé d'avoir connu dans le ministère pastoral des hommes, des femmes à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, baptisés ou non, mais peut-être même, et on s'est mépris peut-être sur la profondeur de leur foi, et bien ils se sont donné la mort. Et c'est terrible. Terrible. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Alors la solution, elle est bien dans le texte. Elle est bien dans ce que nous avons lu là tout à l'heure, hein, parce que c'est bien là. Car la véritable évasion, qui donne ou qui rend la vie passe par un fait qui nous est propre, c'est de ne pas négliger. Beaucoup de choses passent, hélas, comme on dit. Beaucoup de choses passent finalement sous le manteau, je ne sais pas, hein, sous les radars, parce que nous négligeons. Je vous exhorte à ne pas négliger un si grand salut. Dieu est bon, Dieu est grand, il a tout fait pour nous. Nous sommes ses enfants, il est notre Père. Il veut nous donner tout ce que nous avons de meilleur. Mais quelquefois, il faut savoir l'attendre. Et c'est souvent nos précipitations. On bouscule les choses, Seigneur. Je t'ai demandé, j'ai prié, etc. Mais Dieu sait très bien s'il donne. Et il sait très bien quand il ne donne pas. Quand ce n'est pas oui et quand ce n'est pas non, il vous dit, il nous dit, attends, mais moi, je vais faire quelque chose. Vous avez envoyé un message au ciel, que l'on appelle une prière, fait dans l'esprit. Vous la gardez, cette prière, ce message, vous le gardez. Et à un moment donné, il va se réaliser. Peut-être pas comme vous l'avez pensé, mais en meilleur. En meilleur. Oui. Ne pas négliger un si grand salut. Malheureux d'être. Prisonnier de soi-même, prisonnier de nous-mêmes. Croire à que l'indépendance illusoire de Dieu est un remède pour fuir les blessures, les angoisses, alors pour vraiment échapper à l'enfer du mal et à l'existence ici-bas, c'est encore et c'est toujours, mes frères et sœurs, notre foi qui va faire la différence, notre foi dans la grâce de Dieu et dans l'amour de Dieu. Il nous aime, il nous fait grâce. C'est par la foi, que vous êtes sauvés. La foi qui nous amène à recevoir la grâce de Dieu. Notre foi en Jésus et notre dépendance dans sa sagesse, dans sa bienveillante autorité, selon la promesse que je vous lis, et peut-être c'est la première fois que vous allez la lire. Écoutez bien, l'Éternel est mon berger. Non, vous le connaissez, hein ? L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne manquerai de rien. Rien. Ne pensez pas que vous le méritez. Ne pensez pas que Dieu va vous le donner parce que vous êtes un bon garçon et une bonne fille. Que vous êtes sage, assidu aux réunions, que vous faites votre prière, que vous lisez votre Bible tous les jours. Etc. C'est pas dans ce domaine. C'est la grâce de Dieu. Il me fait reposer dans mes fatigues, dans mes rêves de m'échapper d'une manière ou d'une autre de toutes les contraintes et du mal. Il me fait reposer dans les verts pâturages, parce que cette nourriture, elle fortifie mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles, parce que j'ai soif de tellement de choses. Il restaure mon âme, il me guérit de toutes mes blessures intérieures, que je ne comprends pas toujours, moi-même. Il me conduit dans les sentiers de la justice, c'est lui qui est. Qui sera repris, cette parole, elle sera reprise par le plus grand de tous les plus grands, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, quand il dira qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dixit l'apôtre Jean, enfin c'est Jésus. À cause de son nom, pas à cause de mon nom, pas à cause de, parce que je suis bien, non. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'en entendant, je dois marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, et qu'est-ce qu'il est dit ? Je ne crains aucun mal. Vous ne craignez aucun mal, mes frères et sœurs, si vous vivez pleinement votre vie spirituelle. Votre foi, bien sûr, vous ne craignez aucun mal. Alors, ça vous va ? Quel enthousiasme ! Non, mais c'est bien parce que vous écoutez, vous m'écoutez, c'est déjà le principal. Hein ? Que Dieu vous bénisse pour ça. Je termine par ceci. Jésus est la porte de sortie. Ouais. Il est la porte de sortie qui ouvre la délivrance d'un état d'esprit de crainte viscérale. Ah ouais. Nous sommes tenus par la peur. Et nous sommes tenus par la crainte. Et ça, on a des réflexes tous les jours, on ne s'en aperçoit pas. Hein. Puis pour certains, c'est vraiment c'est coutumier. Hein. Alors on recherche toujours à fuir, et ceux qui sont captifs, ça c'est véritablement ce qu'ils entendent faire. Hein. On veut fuir l'empire du mal qui nous environne, et du jugement. Écoutez, on a un grand-père. Vous connaissez le nom de votre grand-père ? Il s'appelle Adam. Moi, j'ai pas de photo à vous présenter, hein, parce que voilà. Il s'appelle Adam et il a eu la même réaction. Il a croqué la pomme avec sa femme. Et à un moment donné, sur le soir, il nous est dit que l'Éternel Dieu descendit dans le jardin pour se promener, prendre l'air. Vous savez comment on... C'est bien ça. Alors c'est très imagé, naturellement. Et il a appelé. Adam, où es-tu? Où êtes-vous? Où êtes-vous, pardon? Où êtes-vous? Et Adam est sorti un peu de ses buissons avec sa femme et il a dit, mais... Je me suis enfui parce que j'ai eu peur. Pourquoi t'as eu peur? Oui, la première question, pourquoi t'as eu peur? Alors il va essayer de batifoler, il va essayer d'imaginer que c'était sa femme. Premier accusé, hein, c'est normal. Bon, ensuite, je plaisante. C'est le diable. Voilà, il aurait dû commencer par là. Hein. C'est le diable. Et puis il y a ceci, il y avait cela, etc. Ça, c'est une échappatoire. Mais mensongère, il n'y a véritablement aucun doute. Hein. Et puis, ben, vous connaissez la suite. Hein. Là, les yeux s'ouvrirent et ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Et vous savez, cette nudité, c'est pas seulement une nudité physique, mais c'est une nudité morale. Ils ont été dépouillés, finalement, de là, ce que Dieu avait mis dans leur vie profonde. Oui, la pureté, la sainteté, etc., etc. Ce qu'ils étaient des hommes, vient de Dieu. Et ils ont perdu, finalement, tout cela. Et c'est à partir de ce moment-là que... Eh bien, les choses se sont dénaturées. Rapprochons-nous de ce Dieu qui est un Dieu d'amour, croyez-le, qui nous appelle à ne rien négliger de notre vie que Dieu nous a révélée, que Dieu nous a donnée, pour vivre heureux et en paix. On ne vit pas toujours heureux et en paix. Il y a toujours, tous les jours, il y a des choses. Tantôt les enfants, tantôt nos petits-enfants, tantôt on entend tellement de fausses nouvelles, on se dit, mais voilà, hein, c'est terrible, qui viennent de tous les côtés. Hein. Et je crois qu'il nous recommande, il nous appelle à ne rien négliger, parce que ça fait partie de notre paix et de notre bonheur. Et il faut à ce moment-là lui faire confiance, même si on ne comprend pas. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu vas le comprendre demain, dira Jésus à Pierre. Vous connaissez l'histoire. Hein. Et de le suivre, avant tout, parce qu'en lui, il y a tout pleinement, de Dieu, de la divinité, de ce qu'il est pleinement en lui, sans prétexte que nous n'avons pas besoin de son secours. S'il y a des gens qui disent « moi j'ai pas besoin de Dieu, je me débrouille tout seul ». Ah oui, on verra la fin. Hein. Alors, Jésus ne nous dit-il pas cette parole, et je termine sur cette parole parce qu'elle est essentielle. Allez mes amis, mes frères et sœurs, ce matin, moi je m'adresse à vous, mais je m'adresse avec la parole de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça va, vous êtes léger comme la plume? Hein? Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos pour vos âmes, sans lui cacher nos erreurs, nos dissimulations, toutes ces choses que nous mettons un petit peu à l'ombre pour pas qu'il s'en aperçoive, il s'aperçoive tout, et de savoir tout lui avouer, Seigneur, et bien voilà ce que je suis, mais je viens vers toi, je reçois tes instructions et nous savons que, eh bien, c'est ce que Dieu veut. Alors, on n'échappe pas à Dieu, mais on ne s'évade pas non plus quand on sent que Dieu n'est pas loin de nous pour nous dire, bien, viens maintenant, ah, n'aie pas peur, je t'accueille pour véritablement te donner une autre vie. Merci Seigneur, on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que ta parole est avant tout un message de délivrance. Seigneur, tu n'es pas là un gardien de prison. Tu n'es pas, Seigneur, celui qui veut nous renfermer pour te garder à toi tout seul. Tu es celui qui véritablement connaît toutes nos petites aspérités et nos grands défauts. Alors, Seigneur, c'est vrai que parfois nous en sommes conscients et nous disons pourvu que Dieu ne le sache pas. Alors là, c'est une autre affaire, celui qui est omniscient, omniprésent. Alors, ça va être difficile. Mais nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce qu'en effet, Seigneur, c'est toi qui nous invites à venir, à nous sentir véritablement fatigués et chargés. Et à ce moment-là, nous croyons que ce sont des paroles toutes simples à expérimenter. Et Seigneur, même celui qui est le fils prodigue, Même celui qui a batifolé dans, en effet, eh bien là, dans des aventures sensuelles, même celui qui a fait des choses qui sont délictueuses, eh bien nous pouvons nous approcher de toi et sans ouvrir les portes de nos prisons pour nous renfermer dedans. Seigneur, merci pour ta bonté. Moi, je te prie pour mes frères et sœurs. Ce sont des choses simples. Et nous avons demandé, c'est vrai, que véritablement derrière les mots que nous avons employés ce matin, imprécis, c'est vrai, parce que nous ne sommes que des hommes, il y ait le vent de l'esprit qui passe à travers ces mots et qui véritablement nous interpelle les uns et les autres pour nous guérir, pour nous sauver, au nom de Jésus. Amen.